Agnès Fouilleux, vous avez eu un riche parcours avant de vous consacrer à la réalisation de films documentaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, ouais, c'est vrai que des fois j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies en une vie, mais pour ce qui concerne le documentaire, en fait, tout est un peu lié dans mon parcours parce que à un moment donné, j'ai été amenée, plus jeune, à voyager beaucoup et donc à prendre conscience pas mal des questions géopolitiques et de comment tout le monde s'organisait. Et en fin de compte, c'est ça qui m'a, je pense, ouvert à essayer de comprendre pourquoi il y avait des riches, pourquoi il y avait des pauvres, pourquoi il y avait des endroits abîmés et des endroits moins abîmés, et pourquoi, enfin, comment tout ça s'organisait. Et je pense que c'est ça qui m'a amené petit à petit au journalisme, et puis ensuite, du coup, au documentaire. Et voilà, avec une. Alors maintenant, je ne considère pas que je fais du journalisme en termes de documentaire, parce que j'essaye d'avoir une approche un peu artistique, enfin, en tout cas, une approche de cinéma à travers les sujets que j'aborde.
Et vous êtes notamment parti dans l'Himalaya. Vous y avez donc consacré plusieurs sujets.
Alors oui, il se trouve que j'ai été en Chine dans ma vie d'avant, à l'époque où je faisais du parapente à haut niveau et où il y avait, j'étais amenée à faire une compétition de parapente en Chine. Et donc j'ai découvert, c'était dans les années 90, et donc c'était au tout début de l'ouverture de la Chine au monde occidental. Et voilà, et du coup, enfin, là, aussi je suis issue de la, enfin, je suis montagnarde, je suis grenobloise à la base. Et donc, je pratiquais l'alpinisme, etc. Et donc, en fait, en Himalaya, se concentrer à la fois les problématiques politiques liées à la Chine et au Tibet, et en même temps la pratique d'alpinisme, comme ça. Et je trouvais ça hyper étonnant que enfin, voilà, ces deux mondes qui étaient en parallèle. Donc des gens qui traversaient l'école himalayen pour fuir en fait un régime politique qui leur avait été imposé, et par ailleurs des gens qui venaient pratiquer un loisir qui était celui de monter sur les sommets de l'Himalaya. Et donc j'ai eu envie de faire un film en fait sur ces. Alors du coup dans le film il n'y a pas le parallèle, ce que j'aurais pu faire aujourd'hui, j'aurais été tentée de faire ça. Mais à l'époque j'ai plutôt eu envie de faire un film sur les questions qui animait les Tibétains et pourquoi en fait ils s'enfuyaient de leur pays à travers l'école, en passant d'école à presque 6000 mètres d'altitude pour fuir ce qui se passait chez eux.
Alors, vous avez fait allusion effectivement à votre intérêt fort pour la géopolitique, les enjeux géopolitiques. On constate que tous vos films ont une dimension politique en ce qui questionne nos choix de société en matière d'agriculture, d'éducation, nos rapports à la nature, aux femmes, à la démocratie. Est-ce que vous vous considérez comme une cinéaste engagée et même au-delà, une citoyenne engagée?
Ben oui, en fait, moi, ce qui m'a amené au cinéma, donc plutôt à la forme de cinéma, parce que tous les films que j'avais fait autour de la question tibétaine, de l'Himalaya, etc., c'était des films qui étaient pour la télévision, et j'ai vite été enfermée dans le carcan du format de la télévision, qui est un carcan de format en termes de longueur, mais c'est pas tant ça qui est gênant, c'est plutôt la façon de montrer les choses, de les expliquer, etc. Et moi j'avais envie de plutôt, plus que d'expliquer aux gens, de leur donner matière à réflexion, en fait, dans le travail que je fais. Donc dans les films de cinéma, à travers la forme, à travers l'usage de l'image, du son, ben on arrive, même si c'est des questions politiques, à faire un travail qui est pas un travail journalistique, mais qui est un travail qui donne des éléments et qui donne des éléments de réflexion sur des questionnements. Alors le premier film que j'ai fait dans ce cadre-là, c'était un film qui s'appelait Un aller simple pour Mahoré, et donc qui parlait des questions politiques aux Comores et de comment la France avait arrangé les choses politiquement là-bas pour son intérêt. Et puis c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, enfin. On entend parler de Mayotte aujourd'hui, et ça, c'est les conséquences de ce qui s'est passé dans ces époques-là. Et puis, c'était aussi des migrations de population massives, puisque c'est des gens qui traversaient d'île en île à la barque, vraiment, hein, donc en se mettant en danger. Et tout ça n'avait pas été raconté. Donc moi, j'avais envie de le raconter, puis de le raconter avec le cinéma. Et puis ensuite, j'ai fait. Oui, voilà, j'ai été animée plus par des questions écologiques, on va dire, mais tout ça est lié. Enfin, pour moi, il n'y a pas de barrière, en fait, entre les questions du colonialisme, les questions. Et d'ailleurs, dans mon dernier film, c'est ça qui ressort. C'est-à-dire que cette question de la domination, Donc le colonialisme, mais la domination sur les femmes, la domination sur la nature, tout ça est lié. Et j'ai l'impression que mon dernier film, c'est un petit peu un agrégat. Enfin, en tout cas, on retrouve toutes les thématiques que j'ai pu aborder par ailleurs. Parce que donc, dans Small is Beautiful, j'avais abordé la question agricole et comment les politiques agricoles et la PAC, et notamment les lobbies, sont à la manœuvre à Bruxelles, notamment sur les politiques agricoles, pour détruire l'environnement, détruire le travail des paysans et puis fabriquer un monde qui, en tout cas, qui n'est pas celui que je défends. Oui, donc dans ce sens-là, je peux dire que je suis une citoyenne engagée, puisqu'à travers la réflexion que j'essaye d'amener dans le travail de cinéma que je fais, je pense que enfin, j'essaye que ça ait une utilité. Ouais.
Et quels sont les obstacles que rencontre la cinéaste documentariste indépendante que vous êtes?
Alors juste pour finir la question
Oui,
d'avant, parce que je viens
oui.
de me rendre compte que je n'ai pas parlé d'un film qui pour moi est vraiment important, parce que qui parle des questions d'éducation. Et donc justement, la question de la citoyenneté, pour moi, elle est majeure dans les questions d'éducation, puisque bah, ce film, il parlait de l'histoire de l'école et comment l'école était devenue, historiquement, était un rapport entre pairs, donc un échange de savoir, et comment l'école est devenue finalement une relation frontale entre des élèves et puis un enseignant. Et donc on a perdu cette dimension-là. Et puis surtout, on a petit à petit, toutes les pédagogies alternatives, Montessori, Freinet, etc., qui sont des pédagogies assez anciennes, qui ont plus d'un siècle, et ben comment on est petit à petit, vraiment, on a exclu ça de l'enseignement. Enfin, en tout cas, pas mal. Et ça dépend des enseignants, bien sûr. Hein, c'est pas. Mais comment cette construction de la citoyenneté, de la responsabilité de chacun, elle se fait aussi dans l'éducation. Et donc, la forme d'enseignement, elle est hyper importante, je crois, pour ça. Et donc, c'était une réflexion autour de ça, ce film-là. Voilà. Et donc, pour en revenir à la question, j'ai
Ben,
perdu la question.
en tant que cinéaste documentariste indépendante,
Ah oui.
abordant des sujets de fond sensibles, la vie ne doit pas être un long fleuve tranquille,
Non,
non?
voilà. Puis, en fait, surtout, c'est presque drôle, mais enfin, ça l'est pas vraiment, en fait. C'est que je m'étais dit au début, je vais m'affranchir de la télévision, m'affranchir dans la forme, pour raconter avec plus de substance, à mon avis, les choses. Et donc, à travers le cinéma indépendant. Et donc, moi, j'ai choisi de produire et de distribuer à travers une association, parce que l'objet, ce n'était pas de faire du profit sur les films, mais vraiment à nouveau, enfin, que chaque film puisse financer le suivant, etc. Et donc, ça a fonctionné jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et avec le Covid, là, on a eu vraiment, depuis le Covid, en fait, une baisse de fréquentation dans les salles pour les petits films, qui n'est pas vrai pour les gros films. Et donc ça devient très difficile parce que évidemment pas de subvention, donc pas d'aide ni du CNC, parce que donc le Centre National de la Cinématographie, qui aide essentiellement, c'est l'industrie du cinéma qui aide les entreprises. Et puis pas d'aide non plus des régions, parce que le modèle est calqué sur. Et puis parce que je demande ce qu'on appelle l'aide à l'écriture, en fait, qui est une aide normalement qui est accessible à tous, à tous les auteurs, on va dire. Au CNC, et celle-là, bah non, j'obtiens jamais d'aide. Donc, en fait, je pensais que de film en film, les choses allaient être plus faciles, puisque les films, ils rencontrent leur public, ils existent, ils vivent, ils sont soutenus par les associations d'art et essai, ils sont recommandés par l'AFCAE, qui est l'Association nationale des films art et essai. Et en fin de compte, c'est de plus en plus dur, et même jusqu'à un stade où là, je sais même pas si je vais réussir à faire le prochain film.
Quelques mots sur ce prochain film?
Ben, pour l'instant, il y a pas de. Pour l'instant, il faut que je finisse la distribution de celui-là. Donc, l'idée, c'est que ben, tout se passe avec le bouche à oreille. Donc, les gens peuvent, s'ils vont sur le site internet qui est lesfilms.info, ils peuvent trouver plein d'infos sur le film, ils peuvent le partager, ils peuvent demander aux salles de cinéma de programmer le film. Si c'est une association, peut demander aussi à ce que le film soit programmé, animer un débat, parce que. Je trouve que c'est très important d'avoir un échange après le film, parce que ça permet justement un échange vivant. Et dans les sociétés dans lesquelles on vit actuellement, c'est le cinéma art et essai, comme ça, avec un débat à la fin. C'est un des derniers lieux où on peut échanger librement sur des idées. Et donc, pour moi, c'est hyper précieux. Et donc les gens peuvent demander aux salles de cinéma, bah, surtout en Bretagne où il y a un réseau de cinéma associatif quand même hyper important, et il n'y a pas ça ailleurs en France, c'est vraiment unique. Et donc demander à ce que le film soit programmé, accompagner le film avec un débat, et puis en parler, échanger autour, etc.
C'est exactement ce que vous faites actuellement, parce que le film en question, qui est L'usage du monde, donc, qui est sorti mi-septembre, il y a quelques semaines, vous tournez avec, en fait, hein, vous, voilà, donc en ce moment en Bretagne. Comment est née cette, l'idée de l'usage du monde ?
Alors, L'usage du monde, en fait, c'est le vrai titre du film, c'est L'usage du monde, voyage entre nature et culture. J'ai tenu à rajouter ça parce que je ne voulais pas que ce soit une spoliation du titre de Nicolas Bouvier. Et donc, j'ai tenu à rajouter voyage entre nature et culture parce que c'est vraiment l'idée du film, c'est vraiment d'essayer de raconter comment il faut que enfin, il y a toute l'historique, ça part de la préhistoire, donc il y a des préhistoriens qui parlent. Mais l'idée, c'est de comprendre comment ce rapport de domination qu'on a instauré vis-à-vis de la nature essentiellement, mais aussi vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des peuples premiers ou autochtones ou nomades, en tout cas dans le monde, et ben, ce rapport-là est destructeur en termes d'humanité, en termes d'écologie. Et comment, en fait, il faudrait passer de ce rapport de domination à un rapport de partage, d'échange, de coopération, en fait.
Et vous faites partie de celles et ceux qui considèrent que le rôle du récit est déterminant. Vous en parlez dans le film, enfin vous et certains de vos interlocuteurs, pour changer les représentations. Et quel récit, selon vous, on doit raconter pour espérer sauver le vivant dans son ensemble, le fameux levier culturel qui semble essentiel?
Ben, à la fin du film, il y a une citation qui m'est chère, c'est Luis Sepúlveda. C'est raconter, c'est résister. Et pour moi, le fait de raconter, de sortir du discours dominant dans lequel on est en permanence plongé et d'essayer de trouver d'autres portes, d'autres éléments de compréhension, d'autres façons de voir le monde, c'est ça aussi la culture. Et c'est ça qui fait que à un moment donné, les sociétés changent. Et je pense vraiment que ce rapport du lien avec le vivant, en fait, dans le film, il y a Valérie Chansigaud, qui est une historienne de l'environnement, qui dit le pire, c'est pas tant ni la peur, ni la détestation qu'on peut avoir de ce qui peut vivre autour de nous, c'est l'indifférence. Et en fait, pour moi, et moi je suis aussi par ailleurs élue locale, là où je vis, et je me rends bien compte que cette nature, ce vivant, cette biodiversité, c'est toujours la variable d'ajustement en dernier lieu. Et en fin de compte, je pense que quand on arrivera à mettre ça comme une priorité, ben on changera aussi notre rapport, notre humanité, notre humanisme, notre capacité à faire avec les autres. Et donc c'est hyper important pour moi, ce lien avec le vivant, politiquement, ça doit... dans l'organisme, donc politiquement dans le sens noble du terme, c'est-à-dire dans l'organisation des sociétés, ça doit être quelque chose qui doit être remis au premier plan. Voilà.
Une dernière question. Nous nous trouvons actuellement dans cette magnifique journée ensoleillée de novembre, en Bretagne, il faut le souligner. Donc nous nous trouvons dans le jardin de la manufacture de Morlaix, dont prend soin un artiste jardinier, Tiphaine Hameau. Quel est votre rapport sensible au vivant non humain ?
Moi, ça fait partie de ma vie et c'est indispensable. Enfin, en termes de... Moi, je suis rurale, quoi. J'ai toujours vécu dans la nature, avec la nature. C'est vrai que j'ai une approche naturaliste, mais ça fait partie de ma vie. Et surtout, il y a un aspect émerveillement, parce que la nature, c'est je sais plus qui disait ça. On peut faire les plus grands voyages un mètre carré autour de soi. Donc quand on est dans la nature, là on est dans un brin de... Il y a du compost, il y a de l'herbe, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a énormément de choses tout autour de nous qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Mais si on commence à regarder avec une loupe binoculaire, ou avec, on va trouver des tonnes de choses. Et donc c'est le voyage dans un mètre carré autour de soi, des fois c'est très chouette.
Agnès Fouilleux, merci.